Bonjour à tous. Il y en a de moins en moins dans nos campagnes. Les oiseaux tombent comme des mouches depuis quelques années et leur disparition s'accélère. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi et qui est responsable de cette situation. En écoutant, réécoutant même l'enquête que vous aviez réalisée en septembre dernier, Philippe Reltien, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous réentendrons Timothée de Roglaudre avec Jean-Louis Adenor. Il a récemment publié Dieu est amour. C'est une enquête sur des groupes religieux qui considèrent que l'homosexualité est une déviance et qui organise des espèces de thérapies de guérison.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Le constat est le même partout en France. Les campagnes deviennent silencieuses. Et le problème touche toute l'Europe. En 30 ans, l'Union européenne a perdu 400 millions d'oiseaux.
Ouais, l'Union européenne, dit ce reportage de France 24, et même le reste du monde, puisqu'on a aussi appris la semaine dernière que les États-Unis avaient, eux, perdu 3 milliards d'oiseaux en 50 ans. Quoi qu'il en soit, ce nombre nous a paru tellement effarant qu'on a voulu mener l'enquête à Secret d'Info. On a voulu essayer de comprendre comment on en est arrivé à ce qu'on peut appeler une hécatombe. Et comme dans toute enquête, Philippe Reltien, on va s'intéresser d'abord à la victime. La victime, en l'occurrence, ce sont donc les oiseaux, et plus précisément, d'ailleurs, faut le préciser, les oiseaux des champs.
Oui, alors on parle là des oiseaux les plus communs, de ceux qui se trouvent dans les campagnes agricoles et qui se nourrissent en picorant les graines, en mangeant des insectes ou des petits rongeurs. Si l'on en croit l'UICN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature, ces oiseaux disparaissent, mais cette disparition s'est accélérée ces dernières années. Écoutez le constat qu'en dresse Frédéric Giguet, un ornithologue.
Depuis 1989, on a perdu en France à peu près un tiers des oiseaux des milieux agricoles. Les alouettes, les tourterelles des bois, les perdrix sont des espèces qui sont en déclin, dont on perd chaque année 1 ou 2% des effectifs. Alors on s'en rend pas forcément compte, parce que on ne se souvient plus, quand on était jeune, de combien d'alouettes on entendait quand on allait dans un champ, etc. Mais finalement, si on se focalise sur des espèces peut-être un peu plus emblématiques, comme les hirondelles ou comme le coucou, finalement on n'entend plus de coucou. On a perdu à peu près un quart des coucous chez nous. C'est une des espèces qui est en déclin marqué.
Ouais, le coucou et son chant caractéristique. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, Philippe. Il y a bien d'autres espèces qui sont touchées.
En effet, 275 précisément. Et parmi les plus menacées figurent un tiers, 32% des oiseaux nicheurs. Le moineau friquet, par exemple, a complètement disparu de nos campagnes, fait remarquer un autre ornithologue du Muséum d'Histoire Naturelle, Jean-Philippe Ciblet, que j'ai rencontré à Fontainebleau.
Le moineau friquet, qui est finalement le moineau des champs par rapport au moineau des villes. Le moineau friquet est en train de disparaître sur nos yeux de toute l'Europe de l'Ouest. C'est pas simplement Fontainebleau, c'est pas simplement la France, c'est toute l'Europe de l'Ouest. L'observation d'un moineau friquet en Grande-Bretagne déclenche des déplacements de plusieurs dizaines de kilomètres d'ornithologues pour aller le voir. C'est dire à quel point cet oiseau est une rareté.
Et pendant que ces oiseaux deviennent une rareté, d'autres plus gros comme les merles, les pies ou les corneilles qui mangent tout, y compris des oisillons, eux survivent, mais ils viennent désormais se réfugier dans les parcs en ville.
Bien, alors on a une scène de crime, Philippe, les champs. On a des victimes, les oiseaux. Alors maintenant, il reste à trouver un coupable. Qui est responsable de cette disparition?
Alors, il y a un seul vrai coupable principal, vous vous en doutez au final, c'est l'homme. Mais il utilise plusieurs armes différentes.
C'est-à-dire?
Eh bien, par exemple, on sait que l'homme a une responsabilité dans le dérèglement climatique. Alors, on pourrait se dire, mais quel rapport avec la mortalité des oiseaux? Eh bien, écoutez à nouveau l'ornithologue Frédéric Giguet. En fait, de nombreux oiseaux qui migrent au printemps et en automne sont désorientés par les effets de ce changement.
Tous ces oiseaux migrateurs, face au changement climatique, peuvent rencontrer des soucis. Quand faut-il rentrer pour arriver à temps? Et puis la particularité supplémentaire du coucou, c'est que la femelle de coucou pond un œuf dans le nid d'une autre espèce et n'élève pas son poussin. Si vous avez des femelles de coucou, par exemple, qui étaient spécialisées sur les rouges-gorges, et je ne ponds mon œuf que dans des nids de rouges-gorges, avec les changements climatiques, les printemps sont de plus en plus précoces en Europe, et quand les coucous arrivent de migration, les rouges-gorges ont déjà pondu leurs œufs, donc il est trop tard pour que ces femelles puissent pondre un œuf dans un nid de rouges-gorges, ben effectivement, ces femelles-là ne vont pas avoir de descendants, ou beaucoup moins, et vont petit à petit disparaître des populations.
Donc le dérèglement climatique serait une des causes de ce dépeuplement.
Oui, en effet, mais il y en a d'autres. Et une autre, notamment, qui est plus traditionnelle, liée à la lutte que l'homme a engagée depuis longtemps contre les nuisibles.
Alors là, faut préciser.
Eh bien, pour protéger les récoltes, de tout temps, on a tué les rats, les mulots, les taupes et autres insectes. Et plus récemment, pour préserver le fourrage, on s'est mis à tuer les campagnols en utilisant un produit chimique. Or, ce produit, qui est toujours en vente, tue aussi, par effet ricochet, les rapaces et notamment les milans royaux qui sont pourtant sur la liste rouge de l'UICN. Écoutez à ce sujet Florian Kirchner.
Il y a un produit qui est très souvent cité, c'est la bromadiolone. C'est un produit qui est très souvent utilisé dans la lutte contre les rongeurs. C'est un anticoagulant. Il est très efficace contre les rongeurs, mais les rapaces s'empoisonnent ensuite en mangeant les rongeurs. Donc en fait, les rapaces sont les victimes collatérales de notre lutte contre les rongeurs. Donc ils mangent des rongeurs empoisonnés, ils s'empoisonnent eux-mêmes.
Ce qui n'était pas effectivement vraiment l'idée de départ. Bon, mais d'autres oiseaux sont aussi indirectement victimes de ces produits chimiques.
Oui, on utilise aussi des vermifuges pour traiter les chevaux ou les troupeaux. Or là aussi, il peut y avoir un effet collatéral, notamment sur des oiseaux à grande queue qu'on appelle les bergeronnettes. C'est ce que nous explique Benoît Fontaine, qui est bagueur d'oiseaux en forêt de Fontainebleau.
Quand on voit un troupeau de moutons ou de vaches en général, il y a tout un tas d'espèces d'oiseaux qui sont souvent associées à ces troupeaux, par exemple la bergeronnette, dont le nom signifie petite bergère, hein, parce qu'elle est souvent avec les troupeaux, les tariers, les étourneaux, etc., sont des oiseaux qui vont profiter de tous les insectes qui sont dérangés par les moutons ou qui vivent avec les moutons et qui vont les manger. Et si ces insectes sont empoisonnés par des produits vétérinaires, ben, ils vont empoisonner les oiseaux qui s'en nourrissent.
Ouais, donc à viser une cible, on en atteint une autre. Mais c'est assez général pour les insecticides.
Absolument. Alors les plus tristement célèbres de ces insecticides, ce sont ceux qui font partie de la famille des néonicotinoïdes. Ce sont eux qui ont décimé les abeilles, mais aussi les trois quarts des insectes. Ils ont été commercialisés il y a moins de 30 ans, avant d'être finalement interdits il y a un an. Et en Allemagne, on estime qu'à cause d'eux, la biomasse des insectes a diminué de 80%.
Et chez nous, c'est pareil ?
Eh bien, a priori, oui. En France, les coopératives agricoles achètent chaque année plus de 50 000 tonnes de produits similaires pour traiter leur blé, orge, seigle, betterave ou encore la vigne. Et toutes les évaluations qui ont été faites montrent que la population d'insectes en France est décimée.
Ouais, le nombre d'insectes diminue, Philippe, et avec eux donc celui des oiseaux.
Oui, parce que ça les affecte également, puisque certains oiseaux se nourrissent d'insectes. Qui dit moins d'insectes ou des insectes empoisonnés dit forcément au final moins d'oiseaux, explique Stéphane Foucard, spécialiste du sujet au journal Le Monde. Il vient de publier un livre intitulé « Et le monde devint silencieux ».
Les insecticides, comme leur nom l'indique, sont faits pour tuer les insectes. Et ces fameux néonicotinoïdes tuent tous les insectes. Ce sont des insecticides à très large spectre, y compris les papillons, les lépidoptères, les coléoptères, les abeilles, les pollinisateurs sauvages, etc. etc. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les oiseaux, même les oiseaux granivores, les oiseaux des champs, il y a toujours une phase, ou très souvent une phase de leur développement, où ils dépendent d'une nourriture basée sur les insectes. Par exemple, ils nourrissent leurs petits avec les insectes. Quand il n'y a plus d'insectes, eh bien, il n'est pas complètement extravagant de penser que les prédateurs vont faire défaut également.
Et les prédateurs, ce sont donc les oiseaux. Mais on peut faire le même constat avec la plupart des pesticides, non ?
Eh bien oui, et ça explique pourquoi les oiseaux des champs sont plus affectés que ceux des grandes forêts. Qu'il s'agisse d'insecticides, de désherbants ou de fongicides, les pesticides sont censés traiter nos rosiers, nos potagers, nos cultures. Mais tous ont des effets sur la santé des oiseaux. Écoutez Noreen Chai, vétérinaire au Jardin des Plantes de Paris, nous expliquer comment ça se traduit.
Les pesticides vont agir sur plusieurs organes, notamment le foie, effectivement, l'encéphale. Ils vont entraîner des lésions au niveau reproducteur. Par exemple, ils vont affiner la coquille des œufs des oiseaux. Et le fait d'affiner va entraîner une fragilité qui peuvent casser facilement. Ça, c'est la partie visible. On peut aussi avoir des produits...
Ça, c'est les insecticides, ça, qui font ça,
voilà,
qui produisent ça.
Tout ce qui est pesticides peut aussi entraîner des lésions au niveau nerveux, des retards de croissance, baisse de fertilité, perte de repères dans l'espace. Donc, amoindrir l'animal.
Ouais, amoindrir l'animal, donc l'affaiblir. Et quel autre symptôme ça peut provoquer ?
Eh bien, plus précisément, les pesticides peuvent dérégler les hormones thyroïdiennes. Or, elles sont indispensables au vol des oiseaux. Écoutez Barbara Domenex, par exemple. Elle dirige une unité de recherche sur les toxiques à Jussieu. Et elle a particulièrement travaillé sur la question de la thyroïde.
Les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour plusieurs aspects de la migration des oiseaux. Le coucou est très concerné, mais aussi les hirondelles. J'imagine que tout le monde a remarqué le baisse de nombre de hirondelles. pour préparer la migration, les hormones thyroïdiennes, donc, ils vont être essentiels pour la prise du poids. Ils vont être essentiels pour les changements dans les muscles qui sont nécessaires.
Oui,
pour
la force, oui.
La force des muscles. Ils vont aussi, les hormones thyroïdiennes, être essentiels pour la navigation. Ça veut dire que c'est vraiment le cas. Ils vont perdre le nord parce que il y a eu des interférences par les pesticides avec les hormones thyroïdiennes.
Oui, perdre le nord, ça veut dire tout simplement se perdre, tomber parfois, et donc mourir. Mais des produits qui ont des effets sur la thyroïde des oiseaux, Philippe, il y en a beaucoup ?
Oui, énormément. On a recensé 287 produits suspects. Des produits qui ne sont pas seulement cancérogènes, mais qui sont aussi mutagènes et reprotoxiques, c'est-à-dire qu'ils affectent aussi les mécanismes de la reproduction. Et je dis officiellement parce que c'est une agence européenne qui les a listés.
L'EFSA, European Food Safety Authority, a regardé 287 molécules des insecticides sur le marché et ils ont vu que 200 affectaient le système thyroïdien et 97 autres affectaient le développement du cerveau.
Oui, autrement dit, ce sont des effets qui peuvent être toxiques, cela dit à plus ou moins long terme.
En effet, le pesticide, c'est un poison à mort lente. L'empoisonnement se fait petit à petit. Et on l'a constaté chez les perdrix grises, chez les pigeons bisets ou ramiers. Les effets finissent par être mortels, mais sans qu'ils soient évidents dans un premier temps, précise Olivier Cardoso, éco-toxicologue à l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
En grande majorité à l'heure actuelle, on va avoir affaire à des pesticides qui vont avoir des effets sublétaux, c'est-à-dire des effets nettement plus insidieux, parfois qui sont liés à des expositions plus longues ou répétées à des pesticides. Ce sont des effets qui vont porter sur des troubles neurologiques, sur des troubles de l'immunité, sur de la perturbation endocrinienne, sur plein d'autres choses et qui vont mettre en jeu la santé de l'animal, mais pas forcément de manière foudroyante, violente, et qui vont même avoir parfois des effets transgénérationnels et des effets sur la population globale de ces animaux, dans le sens où c'est un affaiblissement général de ces populations.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que les pesticides ont des effets qui peuvent être mortels à plus ou moins long terme sur de nombreux oiseaux, et maintenant qu'on tient un suspect, donc Philippe Reltien, alors voyons si on peut le faire condamner, ce suspect, parce que c'est une chose de dire que les pesticides sont un poison pour les oiseaux, mais c'est autre chose de démontrer que dans la nature, les oiseaux sont bien contaminés.
Alors pour la première fois, on a des preuves sur un insecticide qu'on appelle l'imidacloprid. C'est un produit qu'on a répandu dans nos campagnes pendant 20 ans. Eh bien, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage vient d'établir qu'il tue effectivement les oiseaux.
Et comment il l'a établi ?
Eh bien, l'Office avait été alerté sur la présence de nombreux cadavres d'oiseaux en bordure de champs dans plusieurs régions françaises. Il a donc fait réaliser une enquête dont il a publié les résultats en 2018. Nous avons fait lire un extrait de ce rapport par un journaliste.
239 carcasses d'oiseaux ont été récupérées près de champs fraîchement semés dans les zones de culture céréalière intensive du nord et du centre de la France. Plus de 100 cas ont été associés à une réelle exposition à l'usage agricole de la molécule insecticide imidacloprides. Dans les deux tiers des cas, les oiseaux avaient mangé des semences traitées. Et la mortalité par empoisonnement a été déclarée probable dans 70% des cas.
Ouais, donc le lien entre pesticides et diminution des oiseaux serait avéré.
En effet, d'ailleurs, dans le sillage de ces conclusions, le Muséum national d'histoire naturelle va demander au nouvel Office français de la biodiversité de comparer la carte des achats de pesticides en France avec celle des observations d'oiseaux morts dans les départements pour voir quels produits chimiques précisément peuvent être incriminés dans la diminution des oiseaux.
Oui, mais alors si ce lien est avéré, Philippe, faut aller plus loin. Comment font les oiseaux pour s'empoisonner avec cet imidacloprid ?
Il n'y a rien de plus simple. En fait, on a transformé les bonnes vieilles graines d'antan en sorte de graines roses empoisonnées qu'il est extrêmement facile de repérer et de picorer. Et ça, c'est encore le spécialiste de la question, Stéphane Foucard, qui nous l'explique.
La semence qu'on met en terre, ce n'est plus une semence, c'est plus une graine comme nous autres urbains nous l'imaginons. C'est quelque chose qui ressemble un peu à un Smarties, à un petit bonbon coloré. La semence est enrobée du toxique et elle est injectée dans le sol avec des semoirs pneumatiques. Ce qui veut dire quelque chose de très important, qui est qu'on ne traite plus les champs en fonction des ravageurs qui surviennent. On traite les champs par défaut. C'est-à-dire qu'on fait un traitement systématique, préventif, sur des grandes cultures, c'est-à-dire qu'on transforme en champs insecticides des millions d'hectares de grandes cultures.
Bon, j'entends bien, Philippe, tout ça, mais si on enfouit cette semence dans le sol, dans la terre, alors comment font les oiseaux pour la picorer ?
Eh bien d'abord, certaines tombent des sacs ou des remorques avant même leur arrivée dans les champs. Mais surtout, les semoirs pneumatiques qu'on utilise pour les enfoncer dans le sol, ça ne marche pas à tous les coups. En fait, il est impossible d'enterrer toutes les graines. Beaucoup restent donc en surface et il est très facile pour les oiseaux de s'empoisonner, explique le toxicologue Olivier Cardoso.
En fait, sur les parcelles agricoles qui viennent d'être ensemencées, il y a des densités de graines non enfouies qui étaient évaluées, majoritairement comprises, entre en moyenne 10 et 70 graines au mètre carré. Il faut savoir que dans le cas d'un oiseau comme la perdrix qui fait environ 400 grammes, c'est un oiseau qui a besoin de consommer environ 6 graines de betterave à peu près et 150 à 200 graines de blé. Et seulement quelques dizaines de graines suffisent de blé pour entraîner des effets sublétaux, donc des effets neurologiques, des altérations de la vigilance de l'animal et de la motricité.
Mais alors si on sait tout ça, Philippe Reltien, pourquoi on l'utilise cette molécule ?
Alors attention, elle a finalement été abandonnée avec plusieurs autres molécules il n'y a pas longtemps. On l'a interdite en septembre 2018, mais on l'a utilisée pendant 20 ans, tout en fermant les yeux sur les conséquences à long terme de son utilisation. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le toxicologue Olivier Cardoso.
D'après les études qui ont été menées avant la commercialisation, là on le sait, l'imidaclopride, c'est un composé qui est toxique pour les oiseaux.
Attendez, études menées avant la commercialisation, on sait déjà que c'est toxique pour les oiseaux et on commercialise quand même ?
On a une recommandation officielle qui dit qu'il faut enfouir totalement les semences dans les champs.
Ce n'est pas le cas, l'étude dit que ce n'est pas le cas.
Techniquement parlant, il est impossible de garantir l'absence totale de semences non enfouies lors d'un ensemencement.
D'accord, donc on savait dès le début que le produit était toxique, hein, c'est ce qu'on vient d'entendre.
Exact.
Et c'est pour ça qu'on recommandait d'enfouir les semences, sauf que c'est impossible.
En effet, c'est un bon résumé. L'industrie a même inventé, en plus, que les oiseaux apprendraient à ne plus en manger tellement ça leur ferait mal au ventre, une sorte de répulsion à l'indigestion, si vous voulez. Mais là où ça se corse, c'est qu'on n'a pas réglé définitivement le problème en interdisant le produit. Parce que, une fois qu'il y a de l'imidaclopride dans le sol, eh bien il persiste très longtemps, explique encore Stéphane Foucard.
L'imidaclopride et les molécules de cette famille peuvent rester plusieurs années dans l'environnement, dans les sols, où elles peuvent s'accumuler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de travaux qui montrent que les fleurs sauvages, les fleurs que vont butiner les papillons, les abeilles aux marges des champs, sont également contaminées par ces produits. On trouve dans le pollen et le nectar des fleurs sauvages des traces non négligeables et parfois même létales de produits comme l'imidaclopride et ses cousins.
Et ce qui empoisonne cette fois-ci les abeilles qui viennent butiner. Mais cette persistance des pesticides dans le temps, Philippe, c'est un grand classique.
Absolument. Rappelez-vous le DDT à l'époque, cet insecticide interdit chez nous en 1975, mais qu'on a utilisé pendant de nombreuses années. Eh bien, selon la chercheuse Barbara Domenex, on en trouve encore dans les sols et dans les organismes humains aujourd'hui.
50 ans après l'interdiction, le DDT est présent dans le liquide amniotique de toute femme enceinte en France. Et bien plus que le DDT, d'autres pesticides sont aussi présents. Donc, ça va non seulement affecter les insectes nuisibles, mais aussi les insectes extrêmement utiles.
C'est quand même la nourriture des oiseaux.
Oui.
Et donc, quand vous passez un spray toxique sur vos pucerons...
Il n'y a pas que les pucerons qui meurent, c'est aussi les abeilles. C'est aussi les vers de terre qui sont essentiels pour tourner le sol, etc. Donc vraiment, vous affectez tout.
Bon, mais si la situation est aussi grave qu'on l'entend, Philippe, et pour revenir à notre métaphore judiciaire, alors que fait la police? Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas tous ces produits?
Alors, je vous le disais, on l'a fait pour certains. On a commencé à le faire. Mais n'oublions pas que nous sommes la première puissance agricole européenne devant l'Allemagne et l'Italie, et qu'on entend bien le rester. Le poids de la FNSEA est également important. On voit d'ailleurs que sur le glyphosate, l'herbicide, la France a refusé d'inscrire son interdiction dans la loi et s'est donné 3 ans pour laisser aux agriculteurs le temps de se retourner. Mais même au niveau européen, on a du mal à trancher. L'Europe a bien pris des décisions d'interdiction, mais sans aller jusqu'au bout de sa logique, regrette le journaliste Stéphane Foucard.
Au niveau européen, il a été décidé que les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ne seraient pas autorisés à être mis sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché, typiquement, c'est de l'ordre de la décennie. Mais quand ce règlement européen a été adopté en 2009, il a été également acté que les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques qui étaient déjà autorisés resteraient sur le marché jusqu'à l'expiration de leur licence d'utilisation. Ce qui veut dire qu'on a laissé sciemment sur le marché européen, c'est-à-dire on a exposé 500 millions de personnes à ces produits, tout en sachant qu'ils étaient cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, et tout en ayant décidé qu'il ne fallait pas mettre ces produits sur le marché.
Et cela s'explique aussi par le poids des lobbies des industriels. De puissantes multinationales, dont la plus célèbre est sans doute Monsanto, rachetée par l'allemand Bayer. Alors je précise que j'ai contacté Bayer, mais qu'on n'a pas donné suite à ma demande d'interview.
Oui, ce qu'on peut d'ailleurs regretter, parce que derrière les vers de terre, derrière les insectes, les abeilles, et donc notre sujet, les oiseaux, Philippe, il y a l'homme.
En effet, la crainte au fond, c'est que ce qui arrive aux oiseaux ne soit qu'un signe annonciateur de ce qui pourrait bien nous arriver. D'où l'alerte lancée par l'écologiste Fabrice Nicolino qui vient de publier un livre sur les pesticides intitulé « Le crime est presque parfait ».
Quand des scientifiques vous alertent sur la dangerosité d'un produit, la moindre des choses, c'est de prendre son temps, de réfléchir et d'adapter la production en fonction de ce qu'on vient d'apprendre. Or là, on fait exactement le contraire. Vous vous souvenez comme moi, j'imagine, des canaris qu'on utilisait dans les mines de jadis et qui alertaient sur l'imminence de coups de grisou. Quand l'oiseau, hélas, le canari mourait, eh ben, on avait compris que le gaz arrivait. Et là, je pense que c'est le même message que nous adressent les oiseaux. Quand ils disparaissent à la vitesse qu'on voit par centaines de milliers et même millions, dans un pays comme la France, ben il faut sonner le tocsin, c'est évident.
Et si on va au bout de la logique, Philippe, si rien ne change, c'est quoi la suite?
Eh bien, si l'on en croit les scientifiques, le risque, c'est d'avoir un petit nombre d'espèces qui prendraient la place de toutes les autres. Un monde avec des oiseaux adaptés à la pollution, comme c'est déjà le cas avec les cigognes qui se sédentarisent là où il existe des décharges à ciel ouvert. Et à côté, on n'aurait plus que les espèces élevées par l'homme qui seraient, elles, destinées à la consommation ou à la chasse. Bref, ce serait la fin de la biodiversité telle qu'on l'a connue jusqu'à présent.
Bien, espérons qu'il s'agisse d'un risque et non d'une prédiction. Merci en tout cas à Philippe Reltien. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, la lire, la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous, dans quelques instants, nous allons recevoir un journaliste qui a réussi à infiltrer des groupes religieux qui prétendent guérir l'homosexualité.
Please.
Une voix reconnaissable entre toutes que l'âge n'altère pas, bien au contraire. C'était Iggy Pop dans un titre minimaliste, Love's Missing, extrait de son dernier album qui s'appelle Free.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Timothée de Roglaudre, bonjour.
Bonjour.
Avec Jean-Louis Adenor, vous publiez « Dieu est amour ». C'est une enquête sur ces groupes religieux qui considèrent l'homosexualité comme une maladie et qui organisent en France, chez nous, des séances qui s'apparentent à des séances de guérison. Alors c'est une pratique assez secrète qui est inspirée, on va le voir, des États-Unis, mais qui avance quand on vous lit, c'est ce qu'on comprend à visage masqué en quelque sorte, parce que on parle jamais d'homosexualité, on parle pas de maladie d'ailleurs, on parle de problème d'identité, on tourne autour mais on ne dit pas les choses.
Oui exactement, ça c'est la difficulté qu'on a eue au début de notre enquête, parce qu'il y avait ces deux groupes qui sont soupçonnés de pratiquer des thérapies de guérison, Torrent de Vie, un groupe évangélique, et Courage qui est catholique. Mais dans leur discours de communication sur leur site internet, le discours est complètement masqué. Donc on va parler d'identité sexuelle, voilà.
Édulcoré.
On va parler de guérison des blessures profondes, donc on va rester très flou. Mais nous, on savait par ailleurs que dans les maisons mères américaines, puisque c'est des pratiques importées des États-Unis, le discours est beaucoup plus assumé. On va vraiment parler de guérison de l'homosexualité. Donc pour nous, la seule solution de prouver que ce qui se passait à l'intérieur, c'était bien des thérapies de guérison, c'était de les infiltrer.
Oui, le mot qui est utilisé, c'est thérapie de conversion.
Voilà, alors nous on a un petit problème avec...
Ça résonne religieux aussi, hein, on se convertit.
Ouais, nous on a un petit problème avec cette expression, donc qu'on a préféré ne pas retenir, parce qu'à l'origine elle désigne plutôt tout ce qui est électrochoc, castration chimique, etc. Vraiment des pratiques de torture qui étaient utilisées par la psychiatrie et la médecine aux États-Unis. Et aujourd'hui ce qui domine dans les pays occidentaux, c'est beaucoup plus un mélange de pseudo-psychologie et de spirituel. Donc pour nous, le terme thérapie de guérison rend beaucoup mieux compte de cet aspect psychospirituel.
Dans des groupes qui s'apparentent un peu aux alcooliques anonymes, il y a un peu de ça. Hein. Voilà qui je suis, voilà quel est mon problème, on vous écoute.
Oui, il y a justement un des groupes sur lesquels on a enquêté qui s'appelle Courage, qui est directement inspiré des alcooliques anonymes. Donc le prêtre qu'il a fondé en 1980 à New York, c'est explicitement calqués sur les alcooliques anonymes, ils s'installent en cercle et puis ils vont dire « Bonjour, je m'appelle Guilhem », c'est le nom que Jean-Louis a pris avatar, pour l'infiltration. Ouais. « Je m'appelle Guilhem et je suis attiré par les personnes de même sexe ».
Alors on va en parler courage dans un instant parce que ça pose aussi la question des établissements scolaires. Hein. Mais je voudrais qu'on démarre par Torrent de Vie, qui est ce premier groupe dont vous nous avez parlé. On va aller à Lux, près de Chalon-sur-Saône, parce que bah, vous êtes infiltré, Guilhem, hein, comme vous le disiez, c'est infiltré. Alors là, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe, parce que vous y allez plusieurs fois.
Alors ça se passe dans un camp de une sorte de camp de vacances un petit peu donc Jean-Loup raconte qu'il a un petit peu l'impression d'être en colo, il dort dans une tente dans un grand parc, il y a une centaine de participants et en fait la routine c'est que tous les jours on va aller écouter des enseignements sur les qualités intrinsèques de l'homme et de la femme, les abus sexuels, tout un tas de choses où il va y avoir un mélange de témoignages, de références bibliques et de références pseudo-psychologiques et il va à côté de ça il va y avoir des groupes de parole dans lesquels les participants vont raconter un petit peu les traumatismes familiaux qu'ils ont pu avoir, les abus sexuels dans l'enfance, etc. Comme autant de choses qui expliqueraient, selon Torrent de Vie, l'origine de l'homosexualité. Torrent de Vie propose vraiment comme horizon l'hétérosexualité et donc va présenter des espèces de success stories de participants qui sont là depuis des années et qui vont dire, voilà, grâce à Torrent de Vie, grâce à l'action de Dieu, j'ai réussi à devenir hétérosexuel, à être restauré. Et j'ai une femme, des enfants, etc. Mmh. Et quand on gratte un petit peu, c'est pas aussi successful que ça, on va dire.
Alors on disait tout à l'heure, on tourne un peu autour du pot, on ne dit pas vraiment les choses. En même temps, vous expliquez que pour Torrent de Vie, une relation homosexuelle, je cite, ce serait une offrande à un dieu cananéen. Là, faut expliquer.
Voilà, donc quand Jean-Louis arrive au début de la semaine à Lux, donc à côté de Chalon-sur-Saône, il perçoit une espèce de bienveillance, de volonté d'accueillir les homosexuels. Et au fur et à mesure des jours, il se rend compte que l'homosexualité n'est pas seulement vue comme une déviance psychospirituelle, mais aussi comme l'œuvre du démon. Donc il se retrouve notamment dans cette prière de renonciation, où une femme, après avoir parlé de sa relation toxique et malsaine avec une autre femme, va demander aux participants de prier pour se débarrasser de deux démons, Baal et Astarté, donc qui sont des démons de
chasser Satan.
Voilà, des démons du peuple cananéen et qui sont considérés comme les démons de la perversion sexuelle. Donc c'est là que Jean-Loup se rend compte que ça peut être extrêmement violent parce qu'on assimile directement l'homosexualité à une œuvre démoniaque. Et plus tard dans la semaine, il va également entendre un cri très fort dans le parc de ce centre chrétien. Donc il apprendra que c'est un exorcisme.
Alors, en fait, on parle de Lux, mais Torrent de Vie est présent à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes et à Paris, et à Belleville également, vous êtes resté un certain temps.
Bah, en fait, après la semaine à Lux, il y a une espèce de continuité du parcours. C'est un parcours sur le long terme, c'est quelque chose qui peut prendre des années. Donc Jean-Loup s'est inscrit au groupe de parole. Donc c'est un groupe de parole hebdomadaire. Tous les lundis soirs, il se retrouve dans une petite salle du temple de Belleville. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant dans l'enceinte du temple de Belleville. C'est que à la fin de son mois d'infiltration, Jean-Loup va voir le pasteur et il essaye de le confronter à la possibilité qu'il puisse établir une relation avec un autre homme. Donc il lui dit, j'ai rencontré un garçon en soirée, je sens qu'on se plaît, je sais pas trop quoi faire. Et là, le pasteur lui répond extrêmement clairement, tu n'es pas homosexuel, on n'est pas homosexuel, notre vraie identité, donc sous-entendu l'hétérosexualité, Dieu peut nous la faire découvrir et nous pouvons être restaurés. Donc là, il lui dit clairement que l'option de pouvoir être heureux, épanoui en tant qu'homosexuel n'est absolument pas une option.
Alors on en arrive à Courage, qu'on évoquait tout à l'heure, hein, et là je parlais des établissements scolaires. Bah, Courage est implanté effectivement dans des établissements scolaires, et notamment dans un collège Stanislas du 6e arrondissement de Paris.
Voilà, c'est ça, donc établissement catholique très prestigieux. Et ce qu'on a découvert, c'est que pendant 2 années de suite, le congrès mission, donc qui est un rassemblement de chrétiens et qui a lieu en partie dans l'enceinte du collège Stanislas, a invité le père Louis-Marie Guiton, le cofondateur de Courage France, pour expliquer toute sa théorie de l'homosexualité comme déviance psychospirituelle et de l'abstinence sexuelle comme seul chemin chrétien envisageable. Et ce qu'on a découvert par ailleurs, c'est que la personne qui était aumônier de Stanislas, jusqu'à très récemment, était en parallèle aumônier du groupe Courage. Donc Jean-Loup le croise en infiltration et il lui dit tu sais Guilhem, nous on aimerait bien développer un groupe pour les jeunes, en fait un groupe de thérapie de guérison à destination des jeunes, puis un public beaucoup plus fragile.
Alors il y avait un texte interdisant ce type de thérapie qui était en préparation, enfin qui devait être d'ailleurs présenté à l'Assemblée. Toujours pas.
Alors, ça a pris beaucoup de temps parce que les pouvoirs publics ont mis du temps à être convaincus que ces pratiques existaient réellement en France. Et donc, la députée elle-même, députée En Marche, qui a travaillé dessus, a mis beaucoup de temps à trouver des témoignages. Mais là, elle vient d'ouvrir en septembre une mission d'information. Et son objectif est de présenter une proposition de loi au printemps 2020. Donc, les choses commencent quand même à bouger, mais les pouvoirs publics commencent à peine à se rendre compte que ce phénomène existe bien chez nous.
Et votre livre va sans doute y contribuer. Merci Timothée de Roglaudre. Alors merci. Je rappelle donc que ce livre s'intitule « Dieu est amour » et je précise qu'il est édité chez Flammarion. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert, et à la technique, il y avait Guillaume Roux et Florent Beauvallet. Dans quelques instants, Emmanuel Kérat va revenir sur les ouvrages qui ont marqué l'année 2019. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.